Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Parodian Rhapsody. Aujourd'hui, nous continuons notre fil rouge improvisé autour de comédies françaises à grand succès et qui possèdent une dimension parodique à travers La Cité de la Peur. Nous observerons, à travers ce film, une autre utilisation de la parodie comme manière de mettre en abîme le cinéma et le milieu professionnel auquel il est associé. En effet, on remarque que la parodie est usuellement l'objet principal des films que l'on traite, notamment car la parodie est un genre qui semble se suffire lui-même, du moins s'il est appliqué entièrement à un objet particulier. Je m'explique. L'aspect parodique de Spaceballs, par exemple, se suffit à lui-même car l'initiative parodique se décline à l'ensemble de l'œuvre Star Wars, c'est-à-dire reprend l'essentiel de ses codes. Ainsi, si Spaceballs n'est, entre guillemets, qu'une parodie, c'est parce qu'elle est, en réalité, une multiplicité de parodies, que l'on agglomère cependant autour d'une bannière unique, à savoir l'œuvre Star Wars. Mais ce qu'il faut comprendre avec la parodie, c'est que c'est un élément que l'on va pouvoir retrouver dans de nombreux films qui ne sont pas des parodies, voire même qui ne sont pas des comédies. Ainsi, si l'on prend l'exemple de 500 jours ensemble, on peut considérer certains éléments comme parodiques, c'est-à-dire joints avec les codes et donc les attentes d'un genre donné, à savoir la comédie romantique. Pourquoi ne considère-t-on pas ce film alors comme une parodie ? Eh bien tout simplement, car ce n'en est pas une. Il n'utilise pas la parodie comme une fin en soi, mais comme un outil parfois presque invisible pour mieux se distinguer du canon de la comédie romantique. C'est là où effectivement, on se rend compte que ce qui est parodie, c'est surtout ce qui s'affiche en tant que tel, mettant en avant l'œuvre dont est tirée la parodie, pour nous faire instinctivement invoquer les codes qu'on a intégrés de l'œuvre pour y faire directement ou indirectement référence et créer le décalage parodique. Ainsi, pour reprendre une parodie très vieille du cinéma, à savoir Les Trois Mousquetaires, rien que le titre nous évoque le roman d'Alexandre Dumas, et par conséquent, c'est pétri de la connaissance ou de l'idée qu'on se fait de cette œuvre que l'on va regarder le film, qui va donc aisément créer ses décalages parodiques. Tout ce qui ne se déclare pas parodique, ou qui fait référence à des objets éventuellement trop diffus, ne sont pas forcément repérés comme parodies. D'autant que la cinéphilie du réalisateur et de toute l'équipe pousse notamment à faire parfois des références parodiques cachées. Si tout cela nous permet de faire le contrepoint de l'épisode sur la parodie involontaire et notamment la question de la possibilité de l'interprétation parodique non souhaitée dans le cadre de la vision d'une œuvre comme ouverte à l'Umberto Eco, on remarque que, de façon plus simple, la parodie est souvent utilisée à la marge d'un film. Je dirais même que c'est de plus en plus le cas. On imagine moins des longs métrages qui ne sont qu'une parodie de nos jours. Peut-être que c'est parce que le cinéma d'aujourd'hui est en manque de films qui créent cet univers de codes et de mythes à la manière de Star Wars ou plus récemment de Paranormal Activity. On pourrait ainsi presque voir le nombre de parodies qu'a entraîné un film ou un genre comme indicateur de sa mythologicité, c'est-à-dire de sa capacité à façonner et véhiculer du mythe, avec des sagas comme Star Wars ou James Bond comme autant de nouvelles mythologies, au même titre que les légendes arthuriennes ou la Bible. Une fois cette digression faite, revenons au film d'aujourd'hui et observons les figures parodiques du film et comment il l'utilise pour en faire autre chose, en lien évidemment avec la connaissance qu'on a de son succès. Laissez-moi vous expliquer, en gros, le fonctionnement du film, car en réalité, La Cité de la Peur n'est pas si facile à analyser que cela, tant sa dose conséquente d'absurde semble rendre imperméable à tout sens. Selon moi, on a affaire ici à la mise en place d'une histoire qui invoque des codes, des genres ultra codifiés. Le film va ensuite s'appuyer sur le fait qu'on s'y réfère automatiquement pour créer divers types de décalages, parodiques ou non. On remarque donc déjà à ce niveau-là qu'on aura dans ce film deux types de parodies qui se juxtaposent et qui vivent assez bien ensemble. D'un côté, une forme d'esprit parodique qui habiterait le film dans l'idée même de jouer avec des codes liés à des genres du cinéma, sans pour autant se référer à des œuvres précises, et de l'autre, des manières de créer ce décalage qui sont en eux parodiques, c'est-à-dire des mini-parodies dans le film. Commençons d'abord par analyser l'univers de codes et de mythes qu'invoque en premier lieu le film. Cela risque de nous être utile car je vous préviens, après, c'est la foire au décalage en tout genre. Il est donc clairement nécessaire de bien définir la base du film. Si l'on devait résumer La Cité de la Peur dans son histoire, ce serait une forme de thriller policier avec des éléments de slasher. Ainsi, on va avoir d'un côté un tueur masqué qui massacre à la faucille et au marteau ses victimes, et qui agit non pas dans l'ombre de la nuit, mais dans l'ombre des coulisses d'une projection de cinéma. Et de l'autre, on va retrouver des éléments liés à une enquête policière classique, avec une superposition de deux corps de flics, ici les locaux contre celui envoyé de la capitale en garde rapprochée, le tout avec le suspense de savoir qui se cache derrière le masque, un peu à la façon de Scooby-Doo. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est le flou artistique autour de la notion même de thriller, qui semble ici particulièrement perméable à d'autres genres. En vrac, on note l'utilisation de codes liés aux films policiers, aux slashers, aux films d'amour, mais également aux films d'espionnage de par les rapprochements que l'on peut faire entre la mission d'espionnage et celle de protection d'une cible. De base, le film possède donc à sa disposition de nombreux éléments liés à ces genres ultra codifiés, auxquels il va pouvoir se rattacher afin de pouvoir, derrière, se permettre un humour particulièrement destructeur, comme, et on le verra plus tard en détail, avec l'utilisation d'une gamme assez importante de non-sens très puissants dans le marché de l'humour. Il est d'ailleurs étonnant de remarquer que si justement l'univers du film ne repose quasiment que sur une culture cinématographique partagée, le film possède, dans son histoire de base, une première forme de mise en abîme. En effet, le film se passe au Festival International du Film de Cannes et le tueur semble s'inspirer de l'un des films en compétition, à savoir Red is Dead, auquel la plupart des protagonistes sont plus ou moins liés. Cette affaire de meurtre en série va ainsi booster les audiences du film qui peinait auparavant à séduire les festivaliers, Red is Dead étant une merde dans l'univers où se passe l'action. Cela mène à une première utilisation de la parodie intéressante à travers l'extrait de Red is Dead qui nous est montré en tout début de film. Déjà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'idée même de nous faire commencer La Cité de la Peur sur une mise en abîme, mais peut-être aurons-nous l'occasion de développer ces éléments de façon plus détaillée dans un épisode consacré à Last Action Hero. Mais au-delà de ça, remarquons que Red is Dead est en soi le premier gag parodique du film, reprenant l'esthétique Devil Dead et jouant déjà avec les codes ici du slasher d'une première manière, jouant sur la stupidité des personnages de ce type de film à travers le gag des clés, ou encore poussant à l'absurde les codes du genre avec le plan final où on voit le grand méchant qui en fait n'était pas vraiment mort. Or le méchant de La Cité de la Peur imite totalement celui de Red is Dead. En bref, d'un point de vue métaphorique, c'est comme si c'était littéralement l'esprit parodique qui hantait ce film. A minima, cela nous indique qu'il ne faut pas trop chercher de sens dans cet univers, puisque l'on pourrait penser que les festivaliers pourraient être sensibles à Red is Dead en tant que parodie de slasher nanardesque. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Car cet univers n'est pas fait pour avoir du sens pour les gens qui y habitent, mais est là pour produire et détruire du code. On a besoin que Red is Dead soit d'abord cassé par la critique, car par la suite, il permet de reprendre les codes liés à la mise en scène de la success story, ici fondée sur des éléments volontairement peu éthiques. De plus, on a besoin que Red is Dead soit, en plus d'un nanar, une vraie parodie, car si on peut faire des gags à référence à l'intérieur, alors pourquoi pas ? Je sais pas si vous suivez, mais en gros l'idée, c'est ici que la nature de l'univers du film est particulière, puisque ce n'est presque qu'un prétexte, ou plutôt qu'un appui premier, pour d'abord générer du code, c'est-à-dire un ensemble d'attendus de la part du spectateur, et dans un second temps, détruire ces codes, c'est-à-dire créer du décalage, parodique ou non, avec les attentes du spectateur. C'est un peu la même chose que l'univers de Super Mario Bros, mais pour d'autres raisons. Dans Super Mario Bros, tout l'univers trouve son sens de par le prisme du gameplay et celui des limitations techniques de la console à l'époque, de la moustache de Mario à la forme des Goombas. L'univers doit d'abord faire jeu avant de faire sens. Ici, c'est la même chose, mais avec comme volonté première de créer de l'inattendu et de faire rire à partir d'une culture cinématographique partagée. J'ai ainsi essayé de distinguer les différentes manières que le film utilise pour jouer avec les codes, c'est-à-dire, encore une fois, les attendus en termes de sens des spectateurs. Cela va me permettre également de garnir cette analyse d'exemple afin éventuellement de clarifier mon propos, qui est pour l'instant assez théorique. Une des premières manières que le film de jouer avec le code, c'est par la reprise, et toutes les nuances liées à celle-ci. En effet, on le sait tous, parfois la surprise passe aussi par la non-surprise. En gros, faut varier entre surprise et non-surprise. Analysons donc ce que j'appelle les reprises par deux éléments. D'abord, le cri. Le cri, c'est une séquence typique du cinéma d'horreur. Il s'agit d'un cri aigu et strident, le plus souvent féminin, en plan resserré sur le visage. C'est typiquement le type d'élément de mise en scène qui fait partie du cahier des charges du film d'horreur typique, un code parmi tant d'autres. Dès qu'il y a un cadavre, on sait que pas longtemps après, la découverte de ce corps va mener à un cri, Ici, cet élément est repris tel quel, mais on va évidemment le reprendre de telle manière qu'il soit vidé de tout son sens, pour devenir presque qu'un code absurde. On voit également ça de par la reprise des éléments de langage classique des policiers. Lors de l'arrivée du personnage joué par Darmon sur la scène du crime, les journalistes sont à l'affût et on assiste donc ici à une scène typique, à savoir comment le policier va devoir gérer la presse alors qu'il vient d'arriver. Il y a ici reprise des phrases typiques qui sont dites dans cette situation dans les films. Cette reprise est cependant transformée en quelque chose d'absurde, tant elle est répétée et poussée à l'extrême, en faisant par exemple traduire en plusieurs langues cette phrase bateau. Cette idée de reprise a pour moi deux rôles majeurs. D'abord, ça nous rappelle qu'effectivement, on est bien dans le déroulé d'un code très précis. On remarque ainsi que l'utilisation de la figure de la reprise, qu'elle soit accentuée ou absurdifiée, est principalement utilisée en début de film. C'est également une manière de jouer avec le code qui est moins destructrice que les autres dans la mesure où on a une réutilisation et une réappropriation du code original, donc on se place en référence directe au code. On risque donc moins de perdre le spectateur par une avalanche trop importante d'absurdes. Au-delà de cette notion de reprise, on retrouve également d'autres éléments que l'on pourrait classer dans la même famille de figures. Le film met notamment en scène les sous-entendus et les implicites qui sont ceux normalement véhiculés par le code seul. Un exemple de cela est ainsi la scène au restaurant, où l'on va surjouer la mise en scène de l'attirance entre les personnages joués par Lobby et Darmon, avec comme témoin le plus précis de cela, le manque d'écoute de Darmon lié à son attraction. Le film, de façon générale, joue beaucoup sur la mise en scène de métaphores en prenant au sens littéral le figuré. C'est un vecteur d'absurde qui passe certes par les dialogues, mais aussi par la mise en scène globale, transformant ainsi la présentation du commissaire joué par Darmon en un véritable petit film documentaire. De façon générale, on a ici affaire à un humour très complet, qui témoigne d'une compréhension en relief des codes que font le cinéma, à la fois dans leur dimension écrite, mais également sonore ou visuelle. Cela amène au film un vrai sérieux dans sa manière de faire de l'absurde, puisque nous avons, en tant que spectateurs, tous les outils possibles pour percevoir le code qui est à telle ou telle scène au centre du jeu. Cela amène au film un vrai sérieux dans sa manière de faire l'absurde, puisque nous avons, en tant que spectateurs, tous les outils possibles pour percevoir le code qui est à telle ou telle scène au centre du jeu. En contrepoint de cet absurde créé par l'amplification des reprises telles quelles des codes, on a également l'utilisation de contraires, c'est-à-dire de moments où l'on va surprendre le spectateur en allant à l'exact inverse de ce qu'il peut attendre. Là encore, les exemples sont nombreux, mais une illustration de cela, c'est par exemple le projectionniste qui manque de se faire tuer par l'homme à la faucille et au marteau, et qui au lieu de prendre peur ou de s'enfuir, souhaite aider le tueur à décoincer sa faucille. Clairement là, c'est un jeu avec le fait que le film sait que l'on va s'attendre à un comportement donné, et nous propose son exact inverse. On remarque cependant que le simple contre-pied est moins utilisé que d'autres figures, peut-être car le film s'autorise des choses plus folles que la simple proposition en inverse. On peut également penser à ce qu'on pourrait décrire comme un contre-pied issu d'une anticipation du spectateur, lors de l'arrivée du policier joué par Chaba à l'aéroport. Un moment typique, que l'on retrouve ainsi également dans SS-117, est la phase de reconnaissance du contact qui est sur place et que l'homme est censé retrouver à l'aéroport. Là où SS-117 joue avec cette code, avec une forme d'amplification qui surligne le côté pas très malin du héros, dans La Cité de la Peur, on a une forme d'expression du code par la mise en scène et la fatigue liée à la réutilisation de ce poncif en mettant en avant le fait que tout le monde, et notamment les spectateurs, sait déjà qui est le contact du policier sur place, en l'entourant de panneaux menant à ses directions. Ainsi, on remarque bien que ce gag très visuel semble issu d'un contre-pied qui aurait presque pour origine le spectateur lui-même, celui-ci souhaitant éviter une ultime ressucée de cette scène. Mais au-delà de tout ça, une des forces du film est clairement son utilisation habile de ce qu'on pourrait appeler les hors-codes, c'est-à-dire sa capacité à intégrer des éléments qui, normalement, n'auraient rien à faire dans ce film. Dans cette catégorie, je range par exemple la scène de la remise de la mission au policier par son supérieur, où on le voit réciter son speech de mission tout en faisant des tas d'activités impromptues comme du kung-fu. Ça, c'est clairement un des éléments qui fait, selon moi, que le film mérite d'avoir tous les honneurs concernant son écriture. En effet, pourquoi le film peut se permettre un tel niveau de WTF ? C'est parce que le code est déjà présent à la base et que globalement, on peut faire n'importe quoi en même temps, on peut rajouter n'importe quoi à la scène de stupide ou d'absurde, que si on touche pas au code, alors le spectateur ne sera pas perdu, et par conséquent, on pourra tolérer cet univers qui n'a pas de sens dans la réalité des choses. Pour utiliser une métaphore, c'est quand on sait où l'on va que l'on peut se permettre de prendre d'autres chemins ou de papillonner. C'est là où on le remarque, comme on l'a vu au tout début, que le film sait très bien où il va, puisqu'il est conduit par des genres qui sont ultra codifiés. Le film s'en moque presque lui-même, puisqu'encore une fois, les genres sont utilisés comme des prétextes pour avoir des fondations quasi indestructibles pour supporter tout type de mise en abîme ou de non-sens. Et c'est grâce à ces fondations quasi indestructibles que l'on va pouvoir avoir ce qu'on pourrait appeler du hors-code d'ordre référentiel, reprenant ainsi le montage clip archi-célèbre de Pretty Woman sur la musique éponyme, ou les codes et bruitages de la course-poursuite de voiture à la James Bond sur une course-poursuite qui est à pied. Dans le premier cas, c'est vraiment une notion de papillonnage. On peut se permettre ce gag car on sait qu'une fois cette formalité passée, on va pouvoir avoir la suite des aventures, puisque l'on connaît presque tout le déroulé des aventures avant même qu'il ne se soit produit, l'intérêt étant de voir comment le film va jouer avec ça. Dans le second cas, c'est l'idée de faire percuter deux univers pour que tout cela soit absurde, car on sait très bien dans ce cas précis qu'on s'en moque de la réalité de la course-poursuite et des enjeux, car on sait très bien que c'est pas à ce moment-là du film que le policier est censé capturer le tueur. Enfin, on note aussi un tas d'autres types de mises en abîme, comme la matérialisation de la caméra qui devient intradigétique, etc. Je vais m'arrêter là car il est presque impossible d'être exhaustif quand il s'agit de la richesse humoristique de l'univers développé dans La Cité de la Peur. En effet, il ne s'agit pas uniquement d'écriture ou de visuel, mais c'est un film qui est pétri à chaque plan d'une volonté particulière de créer un décalage complet par rapport à un code compris dans toutes ses dimensions. En tant que spectateur comme en tant qu'analyste, ce film est simplement incroyable. Encore une fois, on remarque que ça commence à devenir une sorte de constante dans notre émission, mais le film peut se permettre tout cela de par le sérieux de son travail initial de compréhension des codes et d'élaboration d'une charnière de scénario qui permet de supporter le plus d'altérations possibles du code originel. Dans tout cela, la parodie est utilisée de façon un peu différente que ce qu'on a l'habitude de voir. L'esprit parodique, la démarche parodique, habite clairement ce film sans pour autant en conserver le fond. On se contente ici de juste profiter un jeu virtuose avec un ensemble de codes partagés autour du 7ème art. Pourquoi faire popper une des répliques cultes de Terminator en plein milieu d'une scène qui n'a rien à voir? Selon moi, la seule réponse pertinente est c'est parce qu'on le peut et parce que c'est drôle. Pour être le plus synthétique, La Cité de la Peur est l'exemple parfait d'un film où la parodie n'est jamais une fin en soi, mais est un moyen, ou plutôt ici une démonstration, parmi tant d'autres, des possibilités de jeu autour des codes, ce qui fait écho aux possibilités de jeu avec le cinéma. On comprend de ce fait pourquoi la mise en abîme du monde du cinéma est au cœur de ce film. La Cité de la Peur, c'est un film comique qui célèbre le cinéma en le sublimant et en montrant toutes ses capacités. Et la plus belle preuve de cela, c'est la postérité de ce film, qui, de par l'intelligence de son Balek, a inspiré de nombreuses générations de spécialistes du rire nostalgique des nuls et de toute cette époque qui mettait la liberté au service de la créativité et non de la consensualité ou de la haine la plus crasse. Et oui, je parle toujours de toi, putain de Hitler et Scapout. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir écouté en entier. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les différentes plateformes où vous avez la possibilité de le faire, que ce soit les réseaux sociaux, le site Radio Kawa, iTunes, je crois que aussi on peut le faire. N'hésitez pas également à vous abonner à l'émission, encore une fois sur iTunes, réagir, à mettre des étoiles, à partager sur les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'il faut faire si vous pensez que l'émission mérite d'être diffusée sur d'autres sphères. Parodian Rhapsody est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Parodian Rhapsody, donc tous les troisièmes jeudis du mois comme d'habitude, où on parlera d'un tas d'autres choses. En attendant, je vous invite à écouter les autres podcasts de Radio Kawa et je vous laisse, comme à l'accoutumée, avec quelques petites recommandations de ma part sous forme de bandes annonces. Voilà. À très vite.
Dans TV Nerd, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TV Nerd, c'est en direct un dimanche sur deux sur Radio Kawa.
Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné? Vous confondez toujours Batman et Robin?
Ah mais ouais, mais c'est chaud là quand même, c'est chaud!
Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.